Peuple, je suis un petit passereau des jardins habitué des mangeoires. Originaire des forêts, on me rencontre aussi fréquemment dans l'espace urbain. J'ai le ventre jaune avec une cravate noire, de même que ma calotte et ma gorge. J'ai les joues blanches, les ailes vert olive avec une belle bordure bleue. Je suis... Eh oui, la maison charbonnière.
Vous l'aviez, non? C'est elle qui volait d'un arbre à l'autre au-dessus de votre tête. C'est d'ailleurs pour son étude que sont installés les nichoirs que vous pouvez observer dans certains arbres de ce jardin, comme le beau chêne à côté duquel vous vous êtes assise. Attention à ne pas la confondre avec sa cousine, la mésange bleue, qui traîne souvent dans le même secteur. Celle-là est plus petite et se distingue par sa calotte, une sorte de bonnet, d'un beau bleu cobalt. Et si vous tendez l'oreille, vous vous apercevrez que leurs chants sont assez différents. Charbonnière, bleu. Charbonnière et bleu font toutes deux partie de ce cercle informel des mésanges, qui ne correspond pas à un groupe au sens scientifique du terme et rassemble près de 70 espèces dans le monde, issues de différentes familles. En France, elles sont 7. La charbonnière, la bleue, la nonnette, la huppée, la noire, la boréale et la mésange à longue queue. Nos deux acolytes sont assez faciles à observer. Ce sont les plus communes et les plus anthropophiles des mésanges. Comme elles peuvent vivre dans des habitats variés et qu'elles mangent un peu de tout, cela fait un moment qu'on les rencontre en ville. Pour l'ensemble de ces raisons, elles sont bien connues et observées par les scientifiques. Charbonnières comme bleues sont plutôt insectivores, mais se rabattent sur les graines en hiver, quand les insectes se font rares, ce qui explique qu'elles fréquentent assidûment les mangeoires que nous installons pour le plaisir de les voir picorer. En Angleterre, l'installation de mangeoires est un sport national. Près de 150 000 tonnes de nourriture dédiées aux oiseaux y sont commercialisées chaque année. Et les Britanniques dépensent à peu près deux fois plus d'argent que les autres Européens pour l'achat de mangeoires et de graines. Or, cet engouement aurait des conséquences. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Science a en effet récemment montré que le bec des mésanges charbonnières anglaises s'est allongé de près d'un dixième de millimètre depuis les années 70. Sur 13 millimètres, ça compte. Cet allongement n'est autre que le résultat d'une évolution génétique. Un variant dans la séquence de l'ADN responsable de la longueur du bec serait apparu, et ce, sur une période incroyablement courte. Les individus avec un bec plus long se nourrissent plus efficacement dans les mangeoires et semblent se reproduire mieux que leurs cousins d'Europe. Ceci expliquerait cela. Il semble que la sélection naturelle soit en cours sous nos yeux. Le rapport des mésanges à la nourriture fait par ailleurs parler la science depuis un bon moment. Plusieurs observations et expériences autour de cette thématique ont permis aux chercheurs de mettre en avant les capacités d'apprentissage de ces petits passereaux. Dans les années 20, dans le sud de Londres, on a observé que mésanges bleus et charbonnières développaient une technique pour ouvrir les capsules de bouteilles de lait laissées sur les pas de porte des maisons par les laitiers ambulants. En une douzaine d'années, ce sont les mésanges de toute l'Angleterre qui ont chopé le truc, et pas uniquement en imitant leurs camarades. Il a été montré que la simple observation d'une bouteille à la capsule ôtée permettait aux mésanges de déduire la méthode à utiliser. Cette capacité d'apprentissage leur permet aussi de goûter sans trop se tromper à de nouvelles proies potentiellement intéressantes. Récemment, une équipe de l'université de Cambridge a montré à des groupes de mésanges des vidéos de congénères occupés à manger des chenilles inconnues, marquées d'un signe visuel distinctif et aspergées d'une solution amère. Sur la vidéo, on voit les oiseaux manifester leur dégoût, s'essuyer la tête, la secouer. Quand les scientifiques ont présenté ensuite aux mésanges spectatrices un mélange comprenant des chenilles marquées du même signe visuel que sur la vidéo et d'autres sans marque, elles ont soigneusement évité les marquer. Pas folle, la mésange. On les a vues par ailleurs faire preuve d'une grande malice pour se remplir l'estomac, ou celui de leurs petits. Utiliser une aiguille de pin pour sortir des larves d'un tronc. Tapoter des ruches pour faire sortir les abeilles et les manger. Les mésanges bleues, prévoyantes, font des réserves pour l'hiver. À la fin de l'été et l'automne, un couple peut stocker jusqu'à 14 kilos de chenilles en les cachant sous des écorces, des mousses ou dans les cavités des arbres. Les charbonnières, elles, ne font pas de cache. Elles préfèrent aller piller celles des autres. Ambiance. Parce que ces petites mésanges si mignonnes ne sont pas franchement pacifiques. Comme dans les BD d'Alessandro Pignocchi, elles n'hésitent pas à mener des actions radicales. En temps de disette et de carence en protéines, notamment par grand froid, il arrive à nos amies charbonnières d'aller décrocher de leur support des chauves-souris en hibernation et de profiter qu'elles sont amorphes pour leur fracasser le crâne et leur bouffer le cerveau. riche en nutriments. Sympa, non ? Les scientifiques ont aussi observé ces dernières années un nombre croissant de cadavres de gobe-mouches noires, des petits oiseaux, à proximité des nids des maisons charbonnières. Une étude hollandaise a même montré que la mortalité de ces petits passereaux migrateurs avait augmenté de 9% entre 2007 et 2016. Alors, tueuses en série les mésanges ? Pas pour se nourrir cette fois. La cause en serait le réchauffement climatique. Pour comprendre, il faut faire un petit détour par la nidification. Écoutez plutôt. Les couples de charbonnières, généralement fidèles, nichent année après année dans un même secteur d'une superficie de 3 à 4 hectares. Entre avril et juin, elles s'installent dans une cavité, trou d'arbres, murs, nichoirs, pour y construire leur nid. La femelle y pond entre 5 et 12 œufs, chacun à un jour d'intervalle, et les couve environ 2 semaines. Les petits restent ensuite au nid, entre 16 et 22 jours après l'éclosion, puis s'envolent. Il arrive souvent que madame fasse une deuxième couvée, qui se fera dans un nouveau nid construit pour l'occasion. Mais les mésanges nidifient de plus en plus tôt. Une étude anglaise a montré que depuis 1961, elles ont avancé leur date de ponte de plus de 2 semaines. Depuis 61 ? Comment on sait ça ? On vous l'a dit, les mésanges sont objets d'études depuis bien longtemps, notamment en Angleterre, où une équipe de l'université d'Oxford suit la population de mésanges charbonnières du bois de Whiteham depuis 1947, élaborant ainsi ce qui est la plus longue étude au monde d'une population animale baguée individuellement. Et les scientifiques ont découvert que si les mésanges nidifient 15 jours plus tôt, c'est parce que la période d'abondance des chenilles dont elles se nourrissent s'est elle aussi décalée avec la hausse des températures et l'émergence plus précoce des bourgeons sur les arbres. Après étude, il ressort de cette évolution que les femelles mésanges sont capables d'ajuster leur période de reproduction en fonction de la chaleur printanière. Mais quel rapport avec le gobe-mouche noir ? Eh bien, celui-ci niche dans le même type d'habitat que les mésanges charbonnières. Mais il est migrateur. Et les périodes de nidification de ces deux espèces, qui auparavant se succédaient, en viennent à se chevaucher. En clair, quand le petit gobe-mouche noir revient de voyage pour retrouver son spot, il tombe sur une femelle charbonnière en couvaison et se fait défoncer par son mec. Aïe ! On l'a dit, ça fait longtemps que les mésanges bleus et charbonnières vivent à proximité des humains et se sont acclimatés en ville. L'hiver, elles y trouvent de la nourriture disponible dans les mangeoires et des températures plus douces qu'à la campagne. Elles y attrapent moins de parasites dans leur nid. Ils sont moins victimes des pesticides et de leurs prédateurs directs, l'épervier, même si elles restent la cible des chats. Les différentes observations montrent que leur implantation dans l'espace urbain a induit un certain nombre d'évolutions, tant dans leur apparence que dans leur comportement. Généralement plus petites que leurs cousines de la campagne et de couleur plus terne, elles sont aussi plus aventureuses, avec une néophobie réduite, c'est-à-dire qu'elles ont moins peur de l'inconnu, de quelque nature qu'il soit. Reste à savoir si ces évolutions sont le signe d'une adaptation génétique avantageuse qui favoriserait les mésanges urbaines présentant ces caractéristiques, ou si ce sont plutôt les manifestations de problèmes physiologiques, de carences ou de changements contraints de pratiques. Si la population des mésanges bleus semble très légèrement décroître en ville, celle des charbonnières est stable. Pour autant, et vivent-elles bien ? Se sont-elles adaptées au contexte urbain ou le subissent-elles ? Plusieurs équipes de chercheurs planchent sur le sujet à travers le monde. Le laboratoire Évolution et Diversité Biologique, lié à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, l'Edward Grey Institute of Field Ornithology à Oxford, le Max Planck Institute of Ornithology à Munich et d'autres. Ce sont les chercheurs de l'équipe de Toulouse qui ont installé les nichoirs du Jardin des Plantes dans le cadre d'une grande étude sur le suivi des populations et les dynamiques de reproduction des mésanges charbonnières sur la commune. Pour effectuer des comparaisons pertinentes, ils suivent depuis 7 ans des populations en zone rurale, en zone périurbaine, dans le Jardin des Plantes et le Jardin japonais, mais aussi dans une multitude de jardins de particuliers toulousains. Ils ont pour ce faire lancé un appel aux habitants et habitantes, les invitant à participer à l'étude en acceptant un nichoir chez eux, et ont reçu plus de 1000 réponses. L'étude est toujours en cours, mais les tendances qui se dessinent pour l'instant ne semblent pas vraiment aller vers une adaptation positive des mésanges à la vie citadine. En zone urbaine, elles ont une mortalité plus importante. Elles pondent moins d'œufs. Les poussins qui en naissent ont un poids et une taille inférieurs à ceux de leurs cousins ruraux et restent plus petits en grandissant. Elles semblent également en moins bonne santé que leurs congénères de la campagne. Les résultats indiquent qu'elles suivraient la même évolution que celle observée chez les moineaux. En raison de la moindre diversité de nourriture et d'une présence non négligeable d'aliments transformés, leur microbiote intestinal serait très pauvre, avec des fonctions métaboliques altérées. D'autres phénomènes ont été observés qui semblent corroborer cette hypothèse d'une adaptation malheureuse. Ainsi, les mésanges de la ville ont un chant plus aigu et moins complexe que celui des mésanges de campagne, car elles peinent à se faire entendre dans le vacarme ambiant. Il semble qu'elles pâtissent de cette adaptation contrainte, car dès qu'elles en ont la possibilité, comme cela a été le cas lors du confinement, elles reprennent la complexité de leur chant. Même si cela n'a pas fait l'objet d'une étude, c'est ce qui a été observé par une équipe états-unienne sur un autre passereau, le bruant à couronne blanche, et beaucoup pensent qu'il en irait de même pour les charbonnières. Mais si les mésanges charbonnières toulousaines ont une plus grande mortalité que celle de la campagne, comment expliquer que leur population ne décline pas ? Il est encore tôt pour le dire, mais une des hypothèses serait celle de flux de migration réguliers de mésanges rurales vers la ville. Le miroir aux alouettes de l'espace urbain aveuglerait donc même les oiseaux.